Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Vogue le Navire, aujourd'hui la 71e. À travers une série de portraits d'hommes et de femmes, nous explorons la question essentielle du mouvement. Arriver, partir, revenir, comment cela nous façonne-t-il? Quelle relation avons-nous avec le territoire? Choisit-on nos directions? Quelle est la part de hasard, de nécessité, d'héritage familial? Se mouvoir et s'émouvoir dans l'immobilité? Sommes-nous réellement le capitaine de notre navire, libre face à nos choix? Et ici, tout particulièrement en Ardèche, comment cet îlot sauvage, cette beauté, nous inspire et nous questionne? Voilà, pour aborder ces questions passionnantes, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Lise Combe, qui est arrivée la première fois en Ardèche comme ça, en visite.
En vacances, oui.
En vacances.
Il y a cinq ans.
Et qui a eu un coup de cœur pour Saint-Michel Chabrianou il y a un an avec l'envie d'une maison. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Lise, sur ce mouvement?
Alors, en fait, j'ai grandi en région parisienne et ça fait quelques années que j'avais le désir de quitter Paris. C'était un peu comme la cocotte minute qui la pression monte jusqu'au moment où ça devient un peu insupportable et donc à un moment donné peut-être c'était au mois de mars l'année dernière je commence à regarder des annonces sur internet de maisons en Île-de-France un peu à la campagne parce que je cherchais à être proche de la nature et puis je me rends compte très très rapidement que ça me convient pas, j'ai pas envie de vivre en Île-de-France parce qu'il y a finalement rien qui me rattache vraiment à l'Île-de-France. Et on se dit avec mon compagnon, si on s'installait dans un lieu qu'on choisit vraiment. Et là, on pense à l'Ardèche tout de suite parce qu'on avait eu vraiment ce coup de cœur il y a 5 ans. Et donc c'est arrivé d'un coup, on a été d'accord très rapidement et on a commencé à regarder des annonces et on s'est dit au mois de juin, on va louer un gîte et puis on va visiter des maisons. Dans son optique à lui, c'était un peu plus pour voir un peu ce qui existait. Et moi, j'avais vraiment envie de m'installer, en fait. Donc, et en fait, on a visité 10 maisons. Et au bout de la deuxième, on a trouvé la nôtre. Celle qu'on a achetée.
D'accord, 10 maisons. Et la deuxième, c'était la bonne.
Tout à fait. Mais on n'en était pas... On a senti quelque chose quand même. Déjà, en arrivant dans le hameau, sur la route, avec... C'est vraiment une... La vue est assez impressionnante parce que c'est... On grimpe et puis en haut de la colline, il y a une petite route droite qui mène au bout du hameau. Et puis, il y a les trois becs au loin et l'ouverture sur la vallée. On s'est dit, waouh, qu'est-ce que c'est que cet endroit?
Donc, chaud au cœur.
Ouais.
Et alors, en fait, vous partagez entre Paris et l'Ardèche puisque pour le travail, vous êtes obligé de retourner régulièrement à Paris. Comment vous partagez votre temps et comment vous trouvez votre équilibre
alors,
dans cet espace?
Ça fait 5 ans aussi que je travaille en fait à la radio à Paris et que j'enchaîne des CDD en fait de remplacement parce que je suis remplaçante. Et là, j'ai trouvé l'équilibre de travailler environ 2 semaines par mois. Donc, je prends environ 2 semaines de travail pour pouvoir être 2 semaines aussi en Ardèche. Je pense que c'est une bonne transition peut-être En fait, je pense que c'est plutôt financier. C'est une problématique plutôt financière. Et puis, du fait que j'aime beaucoup mon métier aussi, donc j'ai un peu de mal à lâcher ce côté-là à Paris. Mais mon rêve, en fait, ce serait de pouvoir faire la même chose dans un lieu que j'aurais choisi. Et donc, c'est un équilibre qui est plutôt agréable, même si j'ai quand même beaucoup de mal à retourner à Paris pour le travail. Dès que je suis ici, en fait, je me sens extrêmement bien. Et en arrivant à Paris, j'ai une demi-journée où je suis complètement...
Parachutée.
Déboussolée, quoi. Enfin, je... Waouh, je suis complètement. C'est un dépaysement, mais un peu angoissant aussi parce que je me dis qu'est-ce que je fais là, quoi. Mais je sais pourquoi je viens pour travailler.
Et justement, qu'est-ce qui est différent en fait? Quel impact ça a sur vous Paris? Quel impact ça a sur vous l'Ardèche? Quelle différence vous sentez Quelle différence fondamentale sur votre caractère et sur vos envies, comment ça vous inspire différemment, ce que vous faites tous les jours?
Ben, en fait, je m'en suis aperçue ces les derniers mois avant de déménager, enfin de déménager à mi-temps, on va dire, que c'est des sensations qui devenaient vraiment physiques en fait à Paris. C'est tous mes sens qui étaient, qui se retrouvaient un peu agressés. J'avais l'odorat, les odeurs. Là maintenant, quand je retourne à Paris, je sens vraiment la pollution, les odeurs d'urine un peu partout. Il y a également l'espace vital, en fait, le toucher, le fait d'être en mode sardine en boîte
Protection.
dans le métro, en fait, d'avoir des contacts humains avec d'autres personnes sans forcément avoir envie. Enfin, je pense qu'on a besoin
Le manque d'espace.
d'un petit espace quand même à soi. Alors, on invite parfois des gens à rentrer dans cet espace, mais à Paris, on n'a absolument pas le choix, quoi. C'est vraiment. Soit on se fait bousculer, soit on est très serré. Et donc, il y a ça, il y a aussi le bruit, c'est très très bruyant. En fait, on ne s'en rend pas compte quand on vit là-bas tout le temps. C'est assez fatigant. Et après, le visuel, c'est aussi le côté. Parce que pour moi, on fait partie de la nature, on est même des animaux doués d'une conscience, mais est-ce que les animaux n'ont pas une conscience eux-mêmes? Et là, c'est comme si on s'agglutinait au même endroit et que on avait construit, donc il y avait du béton partout. Et la nature est devenue vraiment complètement minoritaire. On ne sait même plus ce que c'est en fait quand on vit dans une grande métropole. Et c'est ce que j'ai trouvé ici en fait, déjà de retrouver un espace, ma petite bulle quand même, et qui fait que j'ai davantage envie d'aller vers les autres parce que j'ai mon espace. Et donc, j'ai envie de rencontrer des gens et le temps que je passe avec les gens ici est très qualitatif parce que.
Parce que c'est une vraie envie, il y a plus besoin de protection, de se
Oui,
protéger,
je
de...
pense. Et j'ai aussi plus de temps, j'ai un rapport au temps ici qui est différent parce que je travaille pas encore ici, donc c'est vrai que c'est plus facile aussi pour moi d'avoir du temps. C'est pas comme si je devais aller au travail tous les jours. Mais quand je croise quelqu'un, ça dure beaucoup plus de temps que lorsque je croise quelqu'un à Paris. Le temps se dilate en fait, et c'est très agréable.
Ouais, le rapport au temps et à l'espace est différent, modifié. Très bien, on va faire la première pause musicale, Lee, si vous voulez bien, vous pouvez présenter le premier morceau.
Oui, alors c'est Heartbeats de The Knife qui représente en fait un morceau qu'on écoutait tout le temps. Enfin, je dis on, j'ai vécu un an en Islande en 2007. C'était donc il y a plus de 10 ans maintenant et j'y ai passé un an, j'avais 19-20 ans et je travaillais dans un bar et c'était vraiment le groupe du moment qui arrêtait pas de passer tout le temps.
On écoute et on se retrouve tout de suite après pour poursuivre le navire.
Thank you.
Voilà, on se retrouve avec Lise Combe pour poursuivre le navire. Lise, je voulais savoir le fait de passer plus de temps ici, proche de la nature, pas loin de la sauvageté, parce que c'est vrai que quelque part, il y a des animaux sauvages pas si loin. Est-ce que ça vous fait vous poser d'autres questions, justement, ce rapport à la nature, notre place dans le monde ou notre place en tant que vivant? Et peut-être même avoir un autre regard, même quand vous voyez du vivant dans la ville, c'est-à-dire un arbre, un oiseau. Est-ce que ça change la perception de ça et de votre rapport à vous-même?
Oui, en fait, ça change complètement parce que là, on se sent faire partie d'un ensemble naturel, en fait, que chacun a sa place, en fait. Alors qu'en ville, on sent vraiment que c'est... Alors, je pense que c'est un peu dichotomique, mais c'est peut-être un peu caricatural, mais... on sent que c'est l'homme qui domine tout et effectivement on peut trouver un arbre, un oiseau mais ils sont assez minoritaires même si on les entend quand même assez les oiseaux en ville et on se dit on leur a laissé ce tout petit espace par exemple l'arbre avec un grillage autour et puis sur le trottoir donc il y a forcément tout le béton autour et ici la nature reprend sa vraie place en fait elle la reprend pas parce que ça a toujours été comme ça. Enfin, en tout cas, peut-être qu'avant c'était des gens davantage cultivés. Maintenant, c'est peut-être encore plus sauvage maintenant l'Ardèche depuis qu'il y a moins d'agriculteurs. Mais c'est vrai que c'est une sensation tout à fait différente. Quand je suis arrivée ici, on me disait regarde la route parce que j'étais tout le temps en voiture. À regarder le paysage, parce que j'étais complètement émerveillée par le côté spectaculaire et...
Grandiose.
Et grandiose, oui. Et maintenant, je fais plus attention à ça, mais c'est vrai que quand je parlais du rapport au temps, j'ai encore des périodes où je suis chez moi et le matin, j'ouvre les volets et puis je peux rester une minute, deux minutes à regarder par la fenêtre... juste à observer, en fait, à écouter, à voir. Pourtant, c'est toujours la même vue, mais elle est tellement changeante selon la lumière, les nuages. C'est comme si je prêtais davantage attention à tout autour de moi. C'est comme si je me sentais moins oppressée, que j'étais plus ouverte, donc je disais à la rencontre, mais aussi au fait d'être... d'être présent dans un lieu à un tel moment et d'être davantage dans l'observation, peut-être.
Donc finalement, plus qu'un dépaysement, enfin même, c'est presque quelque chose qui vous rapproche de ce que vous aimez vraiment, de vous-même, plus qu'un dépaysement de vivre ici.
Oui, complètement. Ça fait quelques années que j'avais ce besoin de vivre plus proche de la nature, comme je disais, d'avoir tous ces sens en fait qui donnent des informations, les odeurs de pluie, les odeurs de fleurs au printemps, c'est quelque chose que je sentais plus en fait. Et là, ça me permet d'être plus en phase aussi avec moi-même. Et c'est quelque chose dont j'avais envie depuis assez longtemps et que là je C'est un peu un petit rêve qui se réalise quand même, parce que pendant longtemps, j'envisageais pas forcément la possibilité de ce déplacement-là.
Et ça, c'est inspirant, ça donne des idées aussi sur d'autres choses à faire.
Et ben, en fait, je pense à quelque chose. Donc, j'ai rencontré. Des personnes ici assez rapidement et qui m'ont proposé de rejoindre un collectif de chant, en fait, tout simplement. Et c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis. J'ai toujours aimé chanter, mais j'avais vraiment mis ça de côté, en fait, depuis de nombreuses années. Et là, j'avais évidemment un peu le trac la première fois. Et en fait, c'est devenu plus naturel d'avoir envie de chanter, d'être plus en accord avec son corps aussi, parce que ça libère quelque chose, ça fait du bien. Et c'est vrai que peut-être que certaines barrières tombent.
Donc oui, ça... de se reconnecter finalement à des choses que vous aimez vraiment.
Oui.
Et que vous aviez mis de côté peut-être.
Oui, je pense que j'étais pendant un temps, j'avais mis beaucoup de choses de côté parce que j'étais, je pense, en. Alors, je dis un mode survie, mais c'est moi qui le vivais comme tel, en fait. J'avais l'impression de mettre ma carapace et ça cogitait beaucoup et j'étais pas tranquille, quoi.
Très bien, on va faire la deuxième pause musicale. Lise, vous voulez présenter le morceau ?
Oui, alors c'est un extrait des motets d'Alessandro Scarlatti, en fait chanté par Gérard Lenne. C'est un contre-ténor baroque et c'est un morceau qui me touche énormément. En fait, il s'appelle Vulnera percute. En fait, je crois que ça veut dire les blessures qui frappent. Je viens d'avoir la traduction parce que je ne savais jamais ce que ça voulait dire. Et en fait, c'est un morceau sur lequel j'ai dansé parce que j'ai fait beaucoup de danse jusqu'à ce que je me blesse. Et donc, en fait, ce morceau, c'est un peu le symbole de cette histoire que j'ai eue avec la danse qui s'est interrompue, même si je le vois un peu avec plus de philosophie maintenant, mais c'est un morceau qui me touche beaucoup et c'était notamment une variation de Christine Gérard qui était une de mes profs en école de danse et c'est une des pièces que j'ai eu le plus de plaisir à danser.
On écoute et on se retrouve tout de suite après. Merci.
Thank you.
Voilà, on se retrouve avec Liscom pour poursuivre et finir Vogue le navire, puisque le temps file. Lise, vous savez, on en a parlé pendant hors micro, en fait, des deux rituels. Et alors aujourd'hui, on va, pour des raisons contextuelles, on va commencer par le premier. Donc l'objet symbolique, voilà, je vous laisse.
Ouais, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'en fait, j'ai amené une bouteille de vin et il faut que je l'ouvre. Je sais pas si c'est très radiophonique.
Bah, je pense que le bouchon qui va s'enlever et faire le bruit qu'on aime, je pense que c'est assez radiophonique.
Et voilà.
Bravo.
Bon, je sers quand même un petit verre avant de raconter un peu pourquoi j'ai amené ça.
Oui. Merci.
J'ai ramené un vin d'Ardèche, en fait, que j'ai découvert à Privas dans un restaurant et qui me plaît beaucoup. Et en fait, je me passionne par le, enfin, je suis passionnée par le vin depuis quelques années, tant et si bien que j'ai créé une émission de radio avec un copain sur une radio associative, Radio Campus Paris, qui s'appelle L'écoute sur la table. Et en fait, on apprend au fil des rencontres. On sillonne un peu les vignobles et pour moi c'est devenu vraiment ça fait vraiment partie de ma vie maintenant et parce que au-delà d'être bon et c'est un produit culturel qui a un lien vraiment très fort avec la nature. On peut goûter un petit peu plein de pans de nature différents et c'est comme si on s'imprégnait de la roche d'un peu partout. Pour moi, boire du vin, c'est goûter le sous-sol, en fait, c'est ça. Et ça me passionne assez. Et puis, évidemment, ça apporte l'ivresse. Bien sûr, il faut y aller avec modération. Mais et je crois que l'ivresse est assez irremplaçable, en fait. C'est une sensation vraiment... ça peut être vraiment un objet de convivialité où on peut le partager... rire ensemble, ça invite à la discussion, à des tas de choses, assez positives en fait.
On goûte.
Ce petit rituel de bouche, faire entrer de l'air pour mieux saisir tous les arômes pour qu'ils s'expriment un peu mieux dans la bouche.
Ah oui, donc vous êtes une...
Je suis une amatrice éclairée, on va dire, oui. J'ai rencontré beaucoup de professionnels et c'est en échangeant avec eux que j'apprends beaucoup, en parlant avec les vignerons. Et puis en fait, surtout, il faut goûter, déguster. Voilà.
Merci. Très bon. Et alors, l'autre rituel, donc c'est le chapeau du hasard. Donc, en fait, voilà, c'est de... l'idée, c'est de prendre une petite étiquette et de répondre.
Il y en a beaucoup, dis donc. La fleur que j'aime. Bah, je pense à la capucine, comme ça, directement, parce qu'en fait, je suis un peu obsédée par la bouffe. Voilà, c'est pour ça aussi que je suis obsédée par le vin, parce que c'est vraiment... pour moi, c'est comme de la nourriture, c'est... C'est un produit qui fait du bien, quoi. Et la capucine, c'est parce qu'on la mange, en fait. Je la trouve jolie, c'est quand même une jolie fleur, mais on peut manger les pétales qui ont un fort goût de un peu moutardé. Et j'ai découvert ça dans une ferme en Suisse où j'étais allée faire du volontariat et ils avaient plein de fleurs comestibles dans leur potager. Et donc on mettait tous les midis dans la salade, on mettait plein de fleurs et en fait, je crois que j'adore les odeurs de fleurs, les voir dans la nature. mais j'aime aussi beaucoup les manger.
Alors, on va, sur ces belles paroles, on va faire la dernière pause musicale. Si vous voulez bien, Lise, présenter le dernier morceau.
Oui, alors c'est une fanfare roumaine qui s'appelle la fanfare Tchokarlia, avec un chœur de femmes bulgares. Et ça s'appelle Lume Lume. C'est un morceau que j'ai découvert il y a quelques jours en travaillant à la radio, et je l'ai programmé voilà, à la radio où je travaille. Je trouve que c'est très beau parce que c'est à la fois c'est festif, mais en même temps c'est mélancolique, et on ressent vraiment l'âme de ces gens on sent vraiment l'âme des musiciens et des chanteurs, comme s'il y avait une sorte de magie qui opérait entre eux. Voilà.
On se retrouve tout de suite après pour la toute fin de Vogue le navire. Voilà, on se retrouve avec Lise Combe pour poursuivre Vogue le navire. Lise, vous vouliez dire un mot sur le vin ?
Oui, en fait, c'est la cuvée Saint-Giraud sec, un blanc de Jérôme Jouret, à Villeneuve-de-Bergue. Voilà, parce que c'est quand même bien de dire ce qu'on boit.
De dire qui fait ce vin.
Qui fait ce vin, tout à fait, parce que c'est beaucoup, beaucoup de boulot.
C'est sûr. Et vous, par rapport à votre métier à la radio, est-ce que vous voyez un lien avec le mouvement ?
Oui, en fait, parce que en fait, je travaille à France Culture et je change d'émission très souvent parce que je fais des remplacements. Et
en réalisation ?
En réalisation. Donc, je participe à l'élaboration des émissions, la fabrication, les recherches de son, beaucoup de montage son. Du mixage aussi. On travaille quand même en équipe. Donc, une attention très forte sur le son, la forme au service du fond. Mais ce qui est très riche, c'est de changer beaucoup et régulièrement d'émissions, de rencontrer énormément de gens différents et de se plonger dans des univers différents, dans dans des spécialités très différentes. Ça peut être la science, l'histoire, ou beaucoup, évidemment, la culture, la littérature, le spectacle vivant, etc. Et donc, à chaque fois, on se plonge dans un monde. Donc, c'est des mouvements un petit peu... lorsqu'on prépare une quotidienne, par exemple, on se plonge dans un univers pendant une journée entière à fabriquer cette émission. Et donc, on voyage beaucoup mentalement, je dirais.
Le voyage immobile, le mouvement dans l'immobilité.
Exactement, le voyage immobile. Et puis, on voyage par procuration avec tous les invités qu'on reçoit, en les écoutant. En fait, c'est eux qui nous font voyager. Alors, on peut recevoir quelqu'un qui a fait le tour du monde en voilier. Et alors là, ça fait vraiment rêver. Et il y a certains moments où je me dis quand même, j'aimerais bien arrêter d'écouter ces gens qui ont une vie si palpitante et avoir une vie palpitante moi-même. Mais je suis quand même très heureuse de le faire.
Vous l'avez en Ardèche?
Oui, j'ai un petit peu déconstruit ce schéma-là où j'étais avant tout le temps à travailler derrière un ordinateur à la radio ou en régie et à écouter les gens parler. Et maintenant, effectivement, j'ai l'impression d'être davantage actrice de ma vie ici, en fait, oui.
Une forme de liberté aussi, quelque part, dans le mouvement ici.
Et puis une ouverture de possible, en fait, de se dire, je m'installe sur un territoire, tout est à faire, en fait, les personnes sont à rencontrer. Ce que j'ai envie de faire pour construire mon avenir, c'est, on va dire que c'est libre, quoi. Il va falloir que je trouve des idées, mais en tout cas, tout est possible.
Et alors, Lise, en ultime question, qu'est-ce que vous aimeriez absolument faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez absolument faire avant de quitter la surface Terre?
Je ne sais pas si c'est l'unique chose ou celle la plus importante, mais ce à quoi je pense, c'est... ça fait longtemps que j'ai envie d'apprendre la voile. Alors, et c'est vrai que l'Ardèche, ce n'est pas forcément le meilleur endroit. On peut aller au lac de Devesset, etc. Mais c'est vrai que j'aimerais apprendre la voile et si un jour j'ai la possibilité de le faire, de partir comme ça un mois ou deux, j'aimerais aller en mer du Nord, je crois. Donc très loin d'ici, mais pour me rapprocher de la Scandinavie qui a eu une place très importante dans ma vie à une époque quand j'ai vécu en Islande. Et j'ai toujours eu une fascination quand même pour le Nord. Je pense que c'est le côté aussi de paysages très sauvages, de terres assez peu peuplées en fait. Où on est aussi confronté aux éléments, on est assez, on n'est pas seul, mais on a davantage d'espace et on peut se, oui, il y a certains espaces où on peut se retrouver une sorte de solitude mais positive, où on peut se retrouver recentré quoi. Et donc oui, je me vois bien faire un voyage, peut-être partir de Dunkerque pour longer l'Angleterre, une escale aux îles Shetland, les Hébrides, et puis remonter vers le Danemark, la Suède, la Norvège, et ensuite pousser vers l'Islande pour retourner en Islande un petit peu.
Parce que l'Islande, pour vous, ça a été une transformation ?
Oui, ça a été un grand choc. J'y suis partie, en fait, un premier été à 18 ans, où j'ai travaillé comme factrice pendant 3 mois d'été. Donc, j'ai distribué le courrier, et c'était vraiment très, très, très sympa comme expérience. Et parce que, en réalité, je n'avais pas fait ma crise d'adolescence. Je vivais dans une famille où j'ai fait une petite crise d'adolescence quand même. Mais là, j'avais besoin que ça explose un peu plus, d'avoir vraiment de la liberté, de la distance par rapport à justement cet ancrage familial et géographique aussi. J'avais besoin de m'éloigner. Donc, il a fallu que je mette 3000 kilomètres entre ma vie d'avant et ma vie présente. Et ça a été très constructeur, c'est constructif, constructeur, je ne sais pas. Et c'est là où j'ai fait tous mes premiers jobs où j'ai rencontré plein de gens haut en couleur, en fait. Et ça a été une expérience très intense.
Un grand mouvement.
Un très grand mouvement, oui. Je pense que j'ai gagné en
vie.
J'ai expérimenté beaucoup de choses là-bas, oui.
Très bien. Et un dernier mot sur la danse. Est-ce que vous aviez envie de parler de ce dernier mouvement? Parce que c'est quand même, ça a été un moment important pour vous, la danse aussi.
Oui, en fait, en rentrant d'Islande, je me suis retrouvée un petit peu à questionner ce que je voulais faire de ma vie. Et j'avais beaucoup fait de danse classique, en fait, petite. Et manifestement, ce n'était pas mon métier. Parce que la danse classique, c'est quand même un monde très à part. Et suite à un spectacle de danse que j'ai vu au Danemark d'ailleurs pendant des vacances, je me suis dit tiens, j'ai envie de faire de la danse contemporaine. Et alors je m'y suis mise à fond. Donc j'ai commencé par prendre des cours à côté de mon job, et puis l'année suivante j'ai intégré une école de formation, l'année d'après une autre, donc j'avais les deux écoles en même temps. Et j'ai commencé à en fait ça m'a fait reprendre conscience de mon corps. En fait, je m'étais pas mal éloignée de mon corps pendant toute mon adolescence et plus tard, et là j'ai repris conscience que j'y avais une physicalité, j'étais un corps, pas qu'un cerveau sur pattes. Et j'y suis allée assez fort d'ailleurs, parce que je dansais plus de 4 heures par jour jusqu'à me blesser, donc je pense que j'y suis allée trop fort, mais ça m'a fait un bien fou quand même d'expérimenter la physicalité aussi loin. Et donc oui, ça reste un peu une blessure, mais je suis quand même assez ravie de pas en avoir fait mon métier, parce que ça s'est terminé en fait là-dessus, où j'ai été prise à l'École nationale du Danemark pour une formation. C'était un parcours du combattant, c'était très difficile d'y rentrer. On était plusieurs centaines et il y avait 2 semaines d'audition acharnée. Et finalement, j'avais enfin été prise alors que j'avais un peu sillonné l'Europe pour pouvoir enfin atteindre une formation comme ça de haut niveau. Et puis finalement, j'ai dû renoncer à y aller parce que ma blessure ne s'est pas terminée, mais... Il y a encore une histoire avec la Scandinavie, parce que peut-être que maintenant, si la blessure n'avait pas eu lieu, j'aurais été danseuse au Danemark. Mais
notre vie. Autre vie. Voilà. Et notre vie. Bon, merci Lise d'être venue et voilà, nous parler de toutes ces vies et des prochaines.
Merci.
Bonne continuation en Ardèche aussi. Je voulais remercier Lise Combe d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui sous la pluie. Anne-Lou pour la technique encore et toujours, et Emmanuel Falguer pour ce joli générique d'On ne se lasse pas. Vous pouvez nous retrouver sur RDB FM en podcast. Merci beaucoup.